France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir. Des doutes sur la restitution du grand débat national à la une des informés. La moitié des contributions n'a pas été traitée et la thématique sur l'ISF, vous le verrez, minimisée. 26 policiers et gendarmes se sont donné la mort depuis le début de l'année. C'est l'autre grand titre de ces informés. Le chiffre interroge à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes. Nous évoquerons également la destitution par l'armée au Soudan du président Omar el-Béchir, court-circuitant la révolte dans la rue. Peut-on faire un parallèle avec ce qui se produit en Algérie? On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Virginie Le Petit.
Bonsoir.
Chef d'édition à Courrier International. Invité également, bonsoir Charlotte Ozen.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère en communication chez Tilder et enseignante à Sciences Po à Lille. À mes côtés également, bonsoir Étienne Gilrard.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique à Marianne. Et à mes côtés, Thomas Clé. Bonsoir, bienvenue Thomas.
Bonsoir Jean-François.
Professeur de droit à la Sorbonne Université Paris 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Le sujet est grave et la réaction du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a surpris par sa charge émotionnelle. Nous sommes à la veille du 22e samedi consécutif de mobilisation des Gilets jaunes. Ce matin, un chiffre officiel fourni par le ministère de l'Intérieur a créé un choc. 24 policiers et 2 gendarmes se sont donc donné la mort depuis le début de l'année. Les forces de l'ordre surmobilisées entre la lutte contre le terrorisme et la crise des Gilets jaunes frise le burn-out. Il y a recrudescence des passages à l'acte. Ces suicides ne sont pas une fatalité. Il faut mettre les bouchées doubles pour lutter contre ce fléau, a déclaré Christophe Castaner. Et soudain, le ministre de l'Intérieur a évoqué un souvenir personnel recueilli par Christophe Richert du service police-justice de France Info.
La question est trop grave. La responsabilité trop forte. Ergoter n'est pas envisageable. Ce sujet me tient à cœur. Il est au cœur de trop de policiers, de gendarmes, de familles qui ont perdu un collègue, un frère d'armes, un être aimé. Parce qu'un jour, et je l'ai vécu, j'ai dit moi-même à demain à un père et je n'ai pas pu lui dire à demain. Parce que je ne veux pas jamais qu'aucun des nôtres ne puisse dire ces mots par la crainte de ne pas revoir l'autre le lendemain.
Voilà donc les mots de Christophe Castaner. Thomas Clé, c'est assez étonnant cette déclaration. C'est vrai que le sujet est grave.
Le sujet est grave, la déclaration est poignante. Christophe Castaner ne nous a pas habitués à ce type de déclaration aussi forte. Il est manifestement touché, personnellement touché. Et c'est vrai que les forces de l'ordre vivent très mal cette période. Moi, je l'ai dit plusieurs fois à ce micro, d'ailleurs. Ouais. Je ne comprends pas qu'on ne tienne pas davantage de compte de ce qu'elles subissent, parce qu'elles ne sont pas non plus faites pour recevoir des pavés de 10 kilos sur la tête tous les samedis. Je ne sais pas s'il y a une corrélation. Je crois que c'est pas le suicide, c'est multifactoriel. Donc, je ne sais pas s'il y a une corrélation automatique entre ce qu'elles subissent chaque semaine et puis cette recrudescence des suicides. Mais on a une année noire, on a une année référence en matière de suicide dans les forces de l'ordre. C'est l'année 96, 70 suicides dans l'année. On est là sur un étiage qui va sur ce type de chiffres. Et c'est vrai que c'est inquiétant. Le taux de suicide dans la police est, c'est un rapport sénatorial de 2018 qui le dit, est de 36% supérieur au taux de suicide dans le reste de la population. Ouais. Donc il y a un mal-être persistant et qui, manifestement ici, est encore plus élevé cette année.
Virginie Le Petit, nous sommes face à une sorte d'urgence nationale.
Sans doute. Alors, à la fois une sorte d'urgence, mais si on continue à employer ces termes, c'est précisément aussi des termes, je pense, que les policiers doivent entendre en permanence, l'urgence, la pression, parce que ça fait quand même 3 ans et demi qu'entre l'état d'urgence et là, les manifestations et la grogne sociale, ils sont toujours en première ligne. Et puis, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même, depuis 2016-2017, un climat de haine qui est dans la rue. et qu'on voit, alors qu'on voit à travers la casse, etc., mais qu'on voit aussi sur des affiches. J'ai encore revu cette semaine une affiche appelant à pendre. Alors cette fois-ci, c'était les patrons, mais voilà. Enfin, ces appels-là, je trouve, participent aussi à quelque chose qui est violent et qui peut atteindre assez facilement la population et les représentants des forces de l'ordre.
Étienne Gérard, climat de haine.
Oui, il y a un climat de plus en plus violent dans la société, et les policiers, qui sont les représentants du pouvoir, qui vont les premiers à la rencontre de la population, subissent de plein fouet cette montée de la violence dans la société. On parle beaucoup des violences policières, on a raison d'en parler, mais il faut rappeler que l'immense majorité des policiers sont des républicains, attachés à l'intérêt général et qui sont pas là pour violenter les manifestants. Donc, si ça doit nous alerter sur quelque chose, c'est peut-être la façon dont on parle de l'institution policière et des policiers qui sont des hommes et des femmes comme tout le monde, nous dans les médias et tout le monde quand ils s'expriment au sujet de la police.
Charlotte Eusen, il y avait une émotion réelle dans les mots du ministre de l'Intérieur. Il faut changer l'image des forces de l'ordre. Aujourd'hui, elle est très abîmée.
Ce qui est certain, c'est que les forces de l'ordre sont épuisées, et c'est valable pour l'ensemble de la chaîne de commandement. À Place Beauvau, Christophe Castaner aussi est épuisé, Christophe Castaner aussi a des doutes. Et je pense que là, par sa déclaration, il veut aussi recréer du lien avec les forces de l'ordre qui ont été très éprouvées depuis ces week-ends de mobilisation et de gilets jaunes. Mm-hmm. Donc oui, évidemment, sa déclaration et la charge émotionnelle très forte qu'il porte y participent directement.
Thomas Clay, les mesures annoncées, c'est la création d'une cellule d'alerte prévention suicide, un suivi psychologique, un numéro d'appel, ce sont des dispositifs classiques finalement, mais nécessaires.
Oui, je crois qu'il y avait quelque chose de semblable qui existait, qui avait été instauré par Bernard Cazeneuve. Mais je trouve que dans la situation des policiers, je parle cette fois-ci de ceux qui sont au contact des casseurs samedi après samedi, il y a quand même quelque chose qui relève d'une forme d'injustice. Parce que si les casseurs sont aussi violents avec eux, c'est parce qu'ils savent que les policiers ou les forces de l'ordre de manière générale ont reçu des consignes de justement de ne pas répliquer.
De retenue.
Donc ils sont là uniquement pour encaisser. Et c'est vrai que c'est intenable au bout d'un moment. C'est inacceptable d'ailleurs.
Allez, 20h10 sur France Info. Nous marquons une pause avec vous, Jules Dequis, pour le rappel de l'info.
Ce sont les premières heures en 8 semaines de mobilisation en Algérie. La police face à des manifestants dans le centre de la capitale. Des centaines de milliers de personnes sont à nouveau descendues dans la rue aujourd'hui. Elles demandent le départ de tous les proches d'Abdelaziz Bouteflika avant de prochaines élections présidentielles le 4 juillet. L'armée qui a pris le pouvoir au Soudan hier affirme qu'il ne s'agit pas d'un coup d'état militaire. Communiquée ce soir alors que la foule continue à manifester à Khartoum, elle demande que ce soit des civils qui organisent la transition politique après la destitution du président Omar el-Béchir. Un mort, un Palestinien de 15 ans et 17 blessés ce soir dans la bande de Gaza. Des affrontements ont lieu avec l'armée israélienne. Depuis plus d'un an, une série de 17 manifestations à la frontière. Au moins 264 Palestiniens ont été tués. Des plans d'action successifs, mais pas de résultats. Le nombre de morts sur les passages à niveau en France ne baisse pas depuis 20 ans, d'après un rapport parlementaire. Un accident tous les 3 jours. C'est dû à l'impatience des automobilistes et à la routine, d'après une association de prévention routière interrogée sur France Info. C'est la 2e fois dans l'histoire qu'une Française est sacrée championne d'Europe de gymnastique. Mélanie de Jesus dos Santos remporte à 19 ans le concours général organisé en Pologne.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Encore quelques mots sur cette vague de suicides au sein des forces de l'ordre. Comment l'expliquer? Écoutez ce que disait ce matin Daniel Chaumette, secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police FO sur France Info.
La police aujourd'hui a géré des personnes plus violentes, d'un monde plus violent. La police aujourd'hui, par une hiérarchie qui est extrêmement exigeante, qui met une pression absolument énorme, contraint les policiers, et les policiers s'épuisent. On explose, on est en millions d'heures supplémentaires. Le policier passe son temps au travail, et dans des endroits, il y a une gestion des ressources humaines qui est d'un autre temps, qui peut être complètement inadaptée, et dans des services où pourtant, sur le papier, les policiers pourraient faire un travail correct, eh bien, on a des membres de la hiérarchie qui mettent une pression et qui poussent les collègues au burn-out.
Pression, burn-out. Pour conclure sur ce sujet, Étienne Girard, on découvre que les forces de l'ordre, les policiers comme les gendarmes d'ailleurs, qui sont des militaires, eh bien, vivent des situations sociales compliquées.
Oui, on le savait déjà. En réalité, il y a des rapports qui documentent année après année les conditions de travail déplorables dans lesquelles évoluent les policiers qui travaillent avec des rats, avec des équipements obsolètes et qui sont payés beaucoup moins, par exemple, que les fonctionnaires de Bercy à poste égal, ce qui est quelque chose d'étonnant quand on sait que ce sont quand même les représentants de l'ordre dans la société. Donc oui, il faut qu'il y ait une prise de conscience de la société dans son ensemble sur le fait que cette situation-là ne pourra pas durer éternellement.
Allez, nous allons passer au sujet de la restitution à présent. Emmanuel Macron, qui s'apprête à faire ses annonces la semaine prochaine, eh bien n'avait pas forcément besoin de ça à cet instant. Selon les révélations faites ce matin sur France Info, eh bien la restitution en question serait incomplète, tout simplement. Et oui, surprise, il y aurait eu, selon nos informations, 260 000 participants de moins que le 1,5 million annoncé. Seulement une contribution hors ligne sur deux prise en compte, faute de temps. Et la BNF, la Bibliothèque nationale, n'a pas pu numériser l'ensemble. Le reste sera analysé bien d'ici à 3 à 4 semaines. Mais que s'est-il donc passé? Question posée sur France Info ce matin au ministre de la Culture, Franck Riester.
Depuis le départ, tout est transparent, il y a des garants, tout est soumis d'une façon totalement transparente sur les sites internet, notamment par exemple de la Bibliothèque nationale de France. Donc vraiment, on peut pas être plus transparent, et la preuve, s'il y a un débat ou une polémique sur les chiffres, ça veut dire que tout ça est sur la table. Alors après, moi, je sais pas précisément comment les calculs ont été faits. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement justement a pris des garants pour s'assurer que tout ça n'était pas contestable.
Virginie Le Petit, incomplet mais transparent, est-ce que c'est le bon argument, ça?
Non, c'est pas le bon argument, d'autant que il avait été annoncé lors de la restitution que c'était exhaustif. Donc, si on reprend la définition, c'est loin d'être exhaustif puisque tout n'a pas été pris en compte. Donc, non, ça ne va pas. Et ce qui se passe, c'est que si les gens ont participé en masse et se sont donné la peine d'aller exprimer leurs opinions, leurs avis et donner des pistes, il faut tenir compte de toutes les contributions. On ne peut pas juste en éliminer certaines faute de temps. Et l'autre chose, c'est que l'échantillonnage, c'est quand même quelque chose qui ne se fait pas comme ça sur un coup de dé. Et ne pas tenir compte d'une partie de ce qui s'est fait hors ligne, c'est oublier une partie de la population, celle qui n'utilise donc pas Internet. Ouais. Et ça peut changer complètement, enfin pas complètement, mais ça peut changer quand même au niveau de ce que ça exprime, changer les choses.
Alors Charlotte Z, il a été dit, notamment après l'intervention du Premier ministre, que le teasing, pardon pour cet anglicisme, était finalement inopportun. Il valait mieux avoir des annonces tout de suite, ça n'allait pas assez vite. Et là, apparemment, eh bien, on est allé un peu trop vite en besogne.
Ce qui est certain, c'est qu'en fait, tout se passe comme prévu. C'est-à-dire que le gouvernement, le grand débat a permis au gouvernement de reprendre la main après une séquence compliquée en décembre. Et comme prévu, au moment des résultats, on arrive à un résultat hyper complexe.
Mais vous aviez compris, vous, que le travail de restitution serait inachevé? On avait l'impression que ça allait être clé en main, finalement.
En fait, on a l'impression que le gouvernement n'arrive pas à mettre un terme à cette séquence de grand débat. On a fait une dernière concertation en Corse. Il y a eu ensuite une première restitution à l'Assemblée nationale. En fait, ce grand débat n'en finit pas. Et on a une séquence, là, de restitution par Édouard Philippe.
C'est pas très bien ficelé, c'est pas très bien vendu,
oui,
quand
qui
même.
Doit, oui, qui va permettre à Emmanuel Macron de reprendre la main dans ses prochains jours. Mais cette attente est insoutenable pour les Français et n'a aucun sens.
Alors, Étienne Girard, c'est ce qu'a dit Emmanuel Vargon, qui est la secrétaire d'État à l'écologie, mais qui est la co-animatrice du grand débat. Elle dit, on sera à 100%, je la lis, fin mai, tout est en ligne, dit-elle. Elle garantit l'exhaustivité, je la cite. Tout sera traité courant mai, mais le gouvernement détient la masse critique pour que la première restitution soit honnête et crédible. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas suffisamment de retour pour pouvoir prendre des décisions derrière?
Non, on ne justifie pas une exhaustivité quand les résultats ne sont pas exhaustifs. Donc si les résultats sont exhaustifs en mai, on en parle en mai. Et c'est ça qui a péché dans cette affaire-là. Je me rappelle d'une époque où Édouard Philippe, on l'interrogeait sur le budget, il disait « quand je sais pas, je dis pas ». Vous vous rappelez,
il a dit ça.
Et là, on savait pas, il savait pas, il a dit quand même. Et c'est très problématique, parce que un grand enjeu de ce grand débat, c'était l'honnêteté, la sincérité perçue de la restitution. Hors proposition, hors projet de société, hors conclusion en tirée. Ouais. C'était très intéressant, ça, de savoir quelles étaient les problématiques mises en avant par les Français, quitte à ne pas les prendre en compte. Et là, ce qui apparaît, c'est que le gouvernement, n'a pas pu résister à l'envie de façonner la restitution de ce grand débat à son avantage. Et alors que ce soit de bonne foi ou de mauvaise foi, c'est une mauvaise idée, parce que le gouvernement apparaît comme un peu mauvais joueur sur cette affaire-là, et avec la volonté de mitiger, d'amoindrir les points qui lui sont les plus embête le plus, que ce soit vrai ou pas, c'est l'impression que ça donne.
Thomas Clay, je cite Alain Chagnot, qui est associé du cabinet Roland Berger, qui s'est occupé qui a été mandaté par le gouvernement pour analyser les contributions en question. Il dit, lui, il estime qu'il ne faut pas forcément y voir une remise en cause de la crédibilité de la restitution. Vous êtes d'accord avec ce que dit Étienne Girard, qui est sévère, qui estime que c'est non exhaustif.
Je suis rarement d'accord avec les invités ici, mais là, je suis d'accord avec Étienne Girard. Si ce que vous dites est vrai, si ce que France Info révèle est vrai, il n'y a pas de raison de penser que ce ne soit pas le cas, ça fait quand même bidouillage. Ça fait bidouillage. Et
bidouillage ou bricolage?
Alors là, écoutez, Jean-François, je vous laisse le choix. Mais rappelez-vous, ça a mal commencé, ce grand débat. Ça a commencé avec la démission de celle qui était chargée d'organiser le grand débat, Chantal Jouanneau. Et ça pourrait mal finir. Alors entre-temps, ça ne s'est pas si mal passé. Au fond, c'était un exercice de catharsis collectif qui était très utile.
Mais tout le monde a salué la participation vaste, nombreuse,
des publics. Oui, il faut aussi la relativiser, parce que même 1,5 million de personnes, ça fait quand même que 35 millions qui participent pas. Alors, la question que je pose, il y a des garants, d'ailleurs Emmanuel Wargon vient de faire référence aux garants, à quoi servent-ils si ils ne peuvent pas nous dire aujourd'hui si oui ou non, effectivement, les restitutions qui a été donnée est fidèle aux contributions qui ont été proposées.
Virginie Le Petit, sur ces garants, on a envie de les entendre, c'est ça? On aimerait qu'ils soient en première ligne pour qu'ils nous disent les choses.
Oui, on aimerait bien, une explication, effectivement, au moins pour éclaircir les choses. Et puis surtout, je pense que ça prépare très mal l'intervention du chef de l'État qui doit avoir lieu dans les 15 prochains jours. Bon courage.
On va en parler justement. Allez, on marque une pause. 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules De Kiss.
Jusqu'à hier, ils manifestaient contre le président Omar El-Béchir. À présent, ils contestent ceux qui l'ont fait chuter, des centaines de milliers de Soudanais dans la rue à Khartoum face aux militaires. Ils ne veulent pas d'une transition gérée par l'armée et demandent un gouvernement civil. Soir de tension à Alger, pour la première fois depuis le début du mouvement populaire, des heurts ont éclaté entre des jeunes et la police dans le centre de la capitale. Les rues étaient à nouveau noires de monde pour demander le départ de tous les membres du clan Bouteflika. Ce serait pour le peuple la garantie d'élections libres le 4 juillet prochain. Le groupe industriel General Electric va devoir payer une énorme amende à l'État américain, 1,5 milliard de dollars. Une de ses filiales a accordé des crédits immobiliers à risque entre 2004 et 2007, des prêts à taux variables à l'origine de la crise des subprimes. Les policiers du raid interviennent à Amiens en ce moment. Des coups de feu entendus dans le quartier Condorcet, totalement bouclé. Un homme serait retranché chez lui, d'après nos confrères de France Bleu Picardie. Et puis le Conseil d'État va rendre sa décision ce soir ou demain matin au sujet de Clémence Calvin. L'athlète qui s'est soustraite à un contrôle antidopage il y a 2 semaines demande l'annulation de sa suspension. Elle veut pouvoir participer au marathon de Paris dimanche. On apprend par ailleurs qu'elle est dans le viseur de la justice depuis des semaines. Enquête ouverte à Marseille pour des soupçons de dopage.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors vous savez que nous avons publié hier avec Odoxa et Dentsu Consulting pour France Info donc et Le Figaro notre sondage hebdomadaire qui dit que 69% des Français se disent insatisfaits du compte-rendu d'Edouard Philippe. Alors y a-t-il de quoi douter du coup du bien fondé de la démarche? Voici ce qu'en a dit Véronique Reilsoult, qui est la directrice générale de Dentsu Consulting, partenaire de Doxa et sur le sondage, invité à la mi-journée sur France Info.
Globalement, on voyait dans le sondage que ce qu'il reprochait principalement, c'était le sentiment de ne pas avoir la réalité de l'ensemble des données. Il n'y avait pas à ce moment-là de sujet sur la sincérité des chiffres, ce n'était pas encore sorti, mais on voyait bien qu'il y avait une forme de doute sur la sincérité globale. Du coup, j'ai regardé ce qui se disait sur les réseaux sociaux, où il y a forcément une forme d'instantanéité plus forte, voir comment les gens ont réagi. De fait, les deux mots qui ressortent le plus sont enfumage et manipulation. Et si on regarde bien l'ensemble de l'expression des Français durant l'ensemble de ce grand débat qui a duré 3 mois, et le 3e mois, on était dans un début de colère et une impatience. Mais impatience, c'est pas précipitation.
Enfumage, manipulation, Charlotte Zen, impatience. On a l'impression qu'il va falloir vite trouver les bonnes formules magiques pour essayer de poser un petit peu cette sortie de grand débat national.
Hein. Oui, et d'apaiser. L'exercice, en fait, était trop complexe. C'est-à-dire que les contributions ne sont donc ni représentatives, puisqu'on a dit que c'était surtout des CSP+, des urbains, des sympathisants LREM qui avaient participé au débat, ni exhaustives, puisqu'on n'a donc pas l'ensemble des contributions. Donc, la méthodologie, de toute façon, elle était un peu artisanale dès le début. Est-ce qu'on pouvait faire autrement dans le temps imparti ? Pas sûr. Néanmoins, évidemment, aujourd'hui, le résultat est forcément biaisé et les Français ne pourront pas s'en satisfaire.
Ouais, Virginie Lepetit, alors Véronique Reilsoult indique également, hein, ça c'est dans le cadre de l'enquête au Doxa d'Ansu Consulting, France Info, Le Figaro, que sur les réseaux sociaux, il y aura eu 2 300 000 messages qui ont évoqué le grand débat en 3 mois, ce qui est beaucoup. Et sur tout le territoire, il y aurait eu 2 pics de visibilité. Elle dit qu'au tout début, donc, il y a eu la curiosité, à la fin, l'impatience. C'est même passé par un sentiment de doute et de manipulation. Est-ce que l'on va sortir un jour de cette suspicion à l'égard de ce grand débat national ?
Alors, je ne crois pas. Je pense que de toute façon, depuis le début, ça plane sur le grand débat. L'enfumage, c'est quand même le mot qui revient en permanence, pas seulement au propos du grand débat, d'ailleurs, hein, à propos d'un certain nombre d'actions du gouvernement. Et après, moi, ce qui m'ennuie, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas non plus représentatifs. C'est-à-dire que, comme on a dit que dans le grand débat, c'était surtout des CSP+, etc., de la même façon, sur les réseaux sociaux, ça n'est pas non plus un échantillon représentatif de la population française. Donc, on se retrouve, quoi qu'il en soit, avec des opinions divergentes, en ce qui concerne les réseaux sociaux, très marquées, et où, voilà, on arrive à enfumage, impatience, qui ne sont pas forcément non plus celles de l'ensemble de l'opinion française.
Alors justement, à ce sujet, Étienne Girard, ce n'est plus un grand débat, c'est un grand mix qu'il faut. Il faut que la population entière soit embrassée par les conclusions qui vont sortir, les annonces qui vont être faites.
De toute façon, les différents objectifs assignés au gouvernement ne sont pas tous conciliables. On peut pas mettre tout le monde d'accord. On pourra pas mettre d'accord les gilets jaunes en particulier, la population en général, et sur les propositions, de la même façon, on pourra pas à la fois baisser les impôts, augmenter les services publics et faire attention à la dépense publique. Donc il y a des choix qui doivent être faits. Il me semble que la population, les Français, sont totalement capables de comprendre que des choix politiques doivent être faits. Mais la difficulté sur cette restitution, c'était que, il me semble, que la condition nécessaire pour accepter ces choix politiques, c'était que la restitution soit perçue comme d'une sincérité et d'une honnêteté impeccable. Là, c'est pas le cas, donc ça donne une difficulté supplémentaire à Emmanuel Macron pour boucler cette séquence en quelque sorte et mettre fin, fermer la porte de ce grand débat et emmener la population vers une nouvelle séquence en faisant des propositions et montrer qu'il a perçu les grands enjeux la séquence des Gilets jaunes.
Charlotte Zen, est-ce que c'est le bon tempo d'ailleurs, au fait ? Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu s'y prendre autrement, vous qui êtes une spécialiste de la communication ? Est-ce qu'il y avait une bonne formule finalement ?
En tout cas, la bonne formule pour terminer ce débat, c'est d'avoir une prise de parole d'Emmanuel Macron forte, avec pas seulement un cap, comme on a pu l'entendre dire, mais de vraies propositions. Fixer un cap et une vision, c'est la politique, le régime présidentiel du XXe siècle, on donne des grandes directives. Là, il doit aussi proposer une déclinaison concrète, qui sera ensuite mise en œuvre par les ministres, c'est pas ça le problème, mais avec des solutions que les Français peuvent comprendre et voir appliquer rapidement. C'est ça qu'on attend de lui, pour finir cette séquence.
On va y revenir tout à l'heure dans la deuxième partie, justement sur ce que peut annoncer éventuellement le chef d'État. Thomas Clé, cette situation est inédite.
Le grand débat est un exercice démocratique inédit. Est-ce qu'on est déçu de ce qui se passe ? Il faut se demander pourquoi il y avait ce grand débat. Et pour ma part, je considère que le grand débat a été utile, je le disais tout à l'heure, comme un moment de catharsis collective, un moment d'apaisement, de tempérament par rapport aux tensions qu'il y avait au mois de décembre, aux extrêmes tensions. Mais il ne faut pas attendre du grand débat autre chose que cela. Et moi, je ne suis pas surpris de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il ne va rien en sortir, quelles que soient les annonces faites par le président de la République. De toute façon, on le voit bien dans les revendications, ça vient d'être dit à l'instant.
Par Étienne Girard,
c'est la foire fouille ou c'est la fac, la foire aux questions qu'on trouve trouve sur les sites internet. Ça part dans tous les sens, c'est totalement contradictoire, c'est, on parle de concours Lépine. Donc de toute façon, la majorité des gens seront déçus par les propositions, puisque les propositions ne pourront refléter qu'une part infime de ceux qui ont participé à ce grand débat. Le grand débat était utile comme moment d'apaisement, mais il ne va rien en sortir de politiquement de concret.
Donc, allez, ça, nous allons évoquer justement cette question-là que vous soulevez à l'instant, Thomas Clé, dans la deuxième partie des informés après le rappel de la météo et le rappel de l'info. On se retrouve dans une poignée de minutes.
FIP présente 5 ans de session unique, demain à 20h, pour un live AFIP exceptionnel de duos inédits. Fred Palem et le Sacre du Tympan avec MC Solar, Bachar Mahalife et Christophe, Sandra Nkake et Thomas de Porquerie, Babix et Archie Shep, Eric Lénini et Hugh Coltman, Chloé et Vassilena Serafimova. FIP, une radio de Radio France.
Sur France 5,
Emmanuel Macron aurait un compte caché dans une île des Caraïbes. Économiser 350 millions de livres par semaine en quittant l'Union européenne, le vaccin ROR serait à l'origine de certains cas d'autisme.
Comment naissent et se propagent les fausses informations ? Explication dans La Fabrique du mensonge, demain à 20h20 sur France 5.
En partenariat avec France Info.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Sans aluminium, nos doses en papier protègent l'homme et la nature. À retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions avec vous, Sébastien Léas pour Météo France.
Entre la Bretagne, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et l'Ouest provençal, en passant par l'Auvergne et le Centre-Val de Loire, la journée s'annonce bien ensoleillée, même si le ciel du Finistère deviendra voilé l'après-midi. Sur les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Bourgogne et le Lyonnais, le soleil dominera en matinée, puis le ciel deviendra un peu plus variable l'après-midi et les éclaircies resteront tout de même prédominantes. En revanche, entre les Ardennes, l'Alsace, la Franche-Comté et les Alpes du Nord, les nuages seront plus nombreux. L'après-midi sera même plus chargé et les nuages pourront lâcher quelques averses. Un peu de neige se fera remarquer à très basse altitude, des 300 mètres sur les Ardennes, 500 mètres sur les Vosges et entre 900 et 1200 mètres sur le Jura et les Alpes du Nord. Sur l'est de la Provence et la Corse, de nouvelles averses sont à craindre, surtout l'après-midi. Des orages éclateront à nouveau et seront même parfois porteurs de grêle. Demain après-midi, on attend à peine 8 degrés à Strasbourg, 9 degrés pour Lille, 11 degrés à Paris et 13 degrés à Lyon, mais 15 degrés à Brest et Nantes, 18 à Toulouse, 19 à Marseille et jusqu'à 21 degrés à Perpignan.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
À 20h30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Soazic Bourg.
Bonsoir Jean-François. Les suicides dans la police ne sont pas une fatalité. Déclaration de Christophe Castaner. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur en visite à l'hôpital des gardiens de la paix à Paris. Il annonce la mise en place d'une cellule de vigilance et de prévention disponible 24 heures sur 24 pour améliorer le suivi psychologique et médical dans la durée. Depuis le début de l'année, 24 policiers se sont donné la mort en France. Alors chez les syndicats, on salue l'initiative du ministre, mais on attend de voir concrètement l'efficacité de ce plan, à l'image de Denis Jacob du syndicat de la CFDT Alternative Police.
Trop c'est trop, ça a trop duré, ça fait 20 ans que ça dure, ça fait 20 ans qu'on le dénonce, ça fait 20 ans qu'on nous annonce des plans et ça fait 20 ans qu'on en voit que peu l'effet. Donc on espère que ce que Christophe Castaner a annoncé aujourd'hui sera enfin efficace. La grande majorité des suicides, ce n'est pas en dehors du lieu de travail que le policier passe à l'acte. Souvent, c'est dans les vestiaires, c'est dans un bureau. Donc il est en service, il a son arme. Donc de toute façon, c'est pas la question de l'arme. Vous avez aussi malheureusement des collègues qui se pendent. On a eu le cas dimanche dernier. On a retrouvé ce collègue. C'est pas la question de l'arme. La question de l'arme, je dirais, c'est la conséquence à la cause. Il faut s'attaquer à la cause.
Denis Jacob du syndicat de la CFDT Alternative Police. Le gouvernement se défend après les révélations de France Info sur la restitution biaisée du grand débat. C'est Emmanuel Wargon qui a répondu. Elle dénonce une polémique non fondée. Elle assure que ce qui n'a pas été traité sera exhaustif à 100% début mai. Selon nos informations, 260 000 contributions fictives ont été ajoutées aux conclusions et seulement la moitié des propositions ont été prises en compte faute de temps. La France accueillera 20 migrants du navire de l'ONG CI, bloqué depuis plusieurs jours au large de Malte. C'est Christophe Castaner qui l'annonce. L'Italie a refusé de leur ouvrir ses ports, fermés depuis cet été. Normalement, Berlin devrait prendre sa part et permettre à son tour un débarquement. Les habitants de la rue de l'Assomption dans le 16e arrondissement à Paris ne pourront pas rentrer chez eux avant 2 jours. La ville de Paris a pris un arrêté. Les travaux de confortement de la grue qui menace de s'effondrer vont durer 48 heures. En tout, c'est 11 immeubles qui sont concernés. La crise politique et économique au Soudan, le Conseil militaire lance un appel pour obtenir une aide financière étrangère à Khartoum, la capitale des sittings nocturnes continue devant le QG de l'armée. Malgré le couvre-feu, les manifestants refusent le coup d'État des généraux qui ont destitué Omar El-Béchir. Le foot est la 32e journée de Ligue 1. Dijon reçoit Amiens. Ça a démarré depuis 74 minutes. Maintenant, toujours 0-0 entre les deux équipes. L'autre affiche, c'est Nantes-Lyon. Le coup d'envoi, c'est dans 15 minutes. Tout de suite, 20h33 sur France Info, la suite des informés avec Jean-François Aquili et ses invités.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Virginie Lepetit, chef d'édition à Courrier International, avec Charlotte Zen, conseillère en communication chez Tilder, enseignante à Sciences Po à Lille, avec Étienne Girard, journaliste politique à Marianne, et Thomas Clé, professeur de droit à la Sorbonne, Université Paris 1. Alors nous évoquions les doutes au sujet de la restitution du grand débat national. Il y a un sujet qui pose particulièrement problème, c'est l'ISF qui aurait été minimisé. Son rétablissement n'était réclamé qu'à 10,3% si l'on en croit OpinionWay, ça c'était en début de semaine. Et ce sujet arrive pourtant en tête des propositions évoquées dans les cahiers citoyens, les courriels et les courriers également, selon le cabinet Roland Berger, ce qui pose un petit problème pour Sébastien Lecornu, qui est l'un des animateurs du Grand Débat National. Le sujet, ce serait dilué dans les autres préoccupations. On écoute le ministre chargé des collectivités territoriales qui s'est exprimé sur France Info.
Sur l'ISF, effectivement, le débat sur l'ISF est très présent dans le grand débat, au début du grand débat national. Si vous regardez bien, c'est pratiquement une des premières occurrences dans les cahiers, effectivement, qui sont mis à disposition des Français au mois de janvier. Ça disparaît ensuite dans la plateforme, tout simplement parce que d'autres sujets font leur apparition. Et dans le sujet massif qui fait son apparition sur les questions de fiscalité, c'est la baisse des prélèvements obligatoires. Et ça tombe bien parce que rétablir l'ISF, mais ça revient à augmenter les impôts.
Alors, Étienne Girard, le sujet, ce serait donc un petit peu dissous, dilué, enfin, peu importe.
Oui, et alors qu'est-ce que ça change que le sujet ait été abordé massivement fin décembre, oui, début janvier ou début mars? Donc, la revendication serait devenue obsolète. Je crois que le ministre, là, donne l'impression de biaiser, de louvoyer, voire de vouloir minimiser l'importance de l'ISF dans le débat.
Vous pensez que ça a été minimisé, par le gouvernement, ou sciemment? C'est un avis, je vous demande.
En tout cas, l'impression que le gouvernement donne, c'est de ne pas restituer, de tenter d'orienter la restitution. Et il se trouve que le gouvernement a expliqué que l'ISF était très peu présent, et il se trouve que le gouvernement ne veut pas rétablir l'ISF. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est sciemment, mais en tout cas, je note la corrélation entre ces deux phénomènes-là. Ouais, oui, absolument. Mais je crois que en termes de communication, on n'est pas dans quelque chose qui va s'avérer positif pour le gouvernement. Au contraire, il me semble que le gouvernement aurait tout gagné à expliquer que l'ISF était quelque chose, une revendication très importante chez chez la population, chez les participants au grand débat, mais qu'il n'avait décidé de ne pas le rétablir
Justement, Thomas Clé, les gilets jaunes, on le sait, et pas que, pas seulement eux-mêmes réclament le rétablissement de l'impôt sur la fortune, et soudain les contributeurs au grand débat, des experts fiscalistes, se seraient dit, ce serait contraire à un impératif de baisse des prélèvements obligatoires, donc on oublie le sujet. C'est un peu ce que explique Sébastien Lecornu.
L'affaire de l'ISF est une affaire emblématique, parce qu'au fond, l'ISF, c'est un totem politique. C'est un totem politique depuis 1981, depuis l'impôt sur les grandes fortunes, depuis toujours. Ça a été un marqueur politique très important. Il est intéressant de voir que dans cette crise des Gilets jaunes, ça date effectivement peut-être du mois de décembre, du mois de janvier, mais enfin, là, on ne parle pas de Mathusalem, on parle de janvier 2019, c'était le totem politique s'est maintenu pendant cette crise des Gilets jaunes. Et pourtant, le gouvernement a été sur ce point, je crois, relativement transparent et exemplaire. C'est-à-dire qu'il a dit très tôt, on ne rétablira pas l'ISF, pour une raison simple, c'est qu'il avait une légitimité politique et démocratique, puisqu'il a été élu notamment sur ce programme-là. Et moi, je crois très important que la parole politique qui s'est exprimée ou qui a été validée pendant les élections, qui sont pas si anciennes quand même, les élections du printemps 2017, ne soit pas contournés par des manifestations qui ne sont de toute façon que des mouvements minoritaires. Donc sur ce point-là, je trouve que le gouvernement a raison. En revanche, je serais extrêmement déçu si effectivement il avait enfumé, pour prendre le terme, ou s'il avait bidouillé les résultats de l'ISF, qui, quoi qu'il arrive, reste un totem politique.
Virginie Lepetit, aucun signal de la part du gouvernement de vouloir toucher à ce totem, comme le dit Thomas Clay.
Non, ils l'ont, d'ailleurs, le gouvernement l'a expliqué à plusieurs reprises. Oui, ils l'ont expliqué à plusieurs reprises. Ils ont expliqué pourquoi, en quoi c'était un impôt qui finalement n'était pas, on va dire, efficace. Mais ça n'empêche pas de dire, voilà ce que... les gens qui ont participé au grand débat ont dit, voilà ce qu'ils veulent, et comme ça a déjà été dit, d'assumer
nous, question,
ensuite, d'assumer ensuite, parce que les inégalités, c'est quand même ce qui est au cœur de cette
revendication. Contestation, oui.
Voilà, c'est fondé, parce que il y a effectivement une progression des inégalités. L'ISF est un symbole extrêmement fort de ces inégalités, donc, voilà, il faut quand même l'entendre et le restituer.
Oui, alors Charlotte Zell, en termes de communication, l'idée, quelle est-elle? C'est peut-être plus efficace de ne pas du tout en parler ou bien de, comme le dit à l'instant Virginie Lepetit, le mettre sur la table et dire pour nous, c'est pas d'accord.
Et c'est clairement une
erreur. Qu'est-ce qui est le plus efficace?
Non, on ne peut pas ne pas du tout en parler à partir du moment où ça remonte comme étant en tête des revendications des Français. Et par ailleurs, le gouvernement s'était engagé à faire preuve d'exhaustivité et de transparence. Donc ne pas en parler, c'est clairement une erreur. Mais ça pose la question de l'implication d'Emmanuel Macron dans ce grand débat. Il ne peut pas être juge et parti. Et quelque part, en étant la figure constante de ce grand débat, il met aussi sous le tapis les sujets qu'il a décidé de mettre sous le tapis depuis le début, et c'est le cas de l'ISF. Il a décidé il y a longtemps qu'il n'en reparlerait plus. Il était au cœur de ce grand débat, et il ne met donc pas ce sujet sur le devant de la scène.
Et Thomas Clay, les annonces, la possibilité de baisse massive des impôts, c'était en début de semaine, cela crée une attente forte.
Je ne sais pas ce que va faire le président de la République, comme tout le monde d'ailleurs, mais je pense qu'il est dans une impasse. C'est-à-dire que je ne vois pas comment il va se sortir de ce moment, encore une fois, qui a été utile. Mais je ne crois pas que la semaine prochaine, ça va être, comme ça a été dit, un avant et un après dans l'histoire politique française. Je ne crois pas qu'au moment de ce que va dire Emmanuel Macron est de nature ou susceptible d'apaiser définitivement la société, de nous donner un cap pour
avec
le quinquennat.
Avec un effet de souffle.
Un effet de blast, comme on dit maintenant. je ne crois pas du tout, même s'il y a des mesures très très concrètes et précises, je crois que ça ne peut faire que pchit, pour prendre une autre référence politique.
Ah oui, blast et pchit, bravo. Ouais. Très bien, c'est très bien. Vous êtes en forme, Thomas Clay.
Merci.
On va se poser la question justement de ce qui peut sortir des annonces de la semaine prochaine, 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec Jules Dekis.
L'homme retranché chez lui à Amiens vient d'être arrêté par les policiers du RAID. Il a tiré plusieurs coups de feu avant qu'il n'arrive sur place dans l'après-midi. Cet homme est maintenant en garde à vue. La restitution est représentative, honnête et crédible, d'après Emmanuel Wargon. La ministre chargée d'animer le grand débat national répond ce soir sur France Info à la polémique. Le gouvernement n'a pas pu prendre en compte toutes les contributions livrées par les Français. Le délai était trop court entre la fin de la consultation et le début de la restitution. Une cellule d'écoute pour les policiers en souffrance, ceux qui envisageraient de mettre fin à leur jour. Le ministre de l'Intérieur promet de la mettre en place dans les 15 jours. Réponse aux syndicats de police, ils alertent sur le nombre de suicides en hausse depuis le début de l'année. Elle a toussé pendant des jours avant d'être hospitalisée, puis de mourir de la grippe en janvier. Le fils de cette femme de 85 ans demande 100 000 euros à l'EHPAD où séjournait sa mère. Il a trop tardé, selon lui, à l'envoyer à l'hôpital. 8e vendredi de manifestation en Algérie, 8e déferlante dans les rues de la capitale, avec quelques heurts pour la première fois. Les manifestants demandent toujours le départ du clan Bouteflika au pouvoir. La figure de proue, le président, a démissionné, mais ses proches assurent encore la transition avant des élections en juillet. Après 14 ans de disette, la France remporte une deuxième médaille d'or au championnat d'Europe de gymnastique. Le titre au concours général pour Mélanie de Jesus dos Santos. Elle s'impose en Pologne à 19 ans seulement.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Merci Jules Dekis. Nous évoquerons dans un instant la situation au Soudan et ainsi que ces heurts qui se sont produits ce soir à Alger. Mais tout d'abord, l'effet de blast dont parlait Thomas Clay à l'instant. La question c'est qu'est-ce que peut donc annoncer Emmanuel Macron à la hauteur des attentes et de la crise que traverse ce pays. Gabriel Attal, secrétaire d'État à la jeunesse, invité de nos amis de RTL ce matin.
Ce qui est important, c'est que sur le fond, il rappelle le récit de notre action.
pourquoi on a fait ce qu'on a fait, pourquoi est-ce qu'on veut continuer à faire et comment on va faire différemment. C'est aussi ça la question qui a été posée par le Grand Débat. Comment on va faire différemment en termes de construction des politiques publiques? Comment on associe davantage les Français? Comment on fait en sorte que on ait une administration qui soit davantage tournée vers l'exécution, vers le fait que la vie des Français se transforme concrètement quand des décisions politiques sont prises? Ça, c'est un premier chantier majeur. Puis évidemment, un chantier sur la justice fiscale, sur le pouvoir d'achat des Français, notamment des classes moyennes.
Alors, Étienne Girard, compliqué hein, toujours de précéder le chef de l'État et de répondre à ce type de questions. Mais qu'est-ce que ça signifie, quoi, faire différemment? Nous sommes deux ans presque après l'élection présidentielle. On va changer de présidence?
Bah, ça signifie avant tout.
Que dites-vous, Thomas Clé?
C'est un jeu de mots.
Un jeu de mots de président, d'accord. Continuez.
Non, mais ça signifie surtout mettre une pierre en termes de storytelling. Ça veut faire différemment. Ça veut juste dire. Expliquer aux Français en prenant cette date en particulier, en expliquant qu'on va changer du tout au tout la méthode, et on aura le soir de l'intervention du président de la République absolument tout le gouvernement sur tous les plateaux lyrique et solennel à nous expliquer qu'on vient de vivre un grand moment, que c'est un momentum, que tout a changé. Ça signifie ça en termes de storytelling. En termes de mesures, pour l'instant, ça signifie rien. Et on a du mal à imaginer ce que ça va signifier.
Oui.
Si on observe les petits cailloux qui ont été déposés, notamment par Édouard Philippe et par Gabriel Attal également sur RTL. Alors on voit bien qu'il y aura quelque chose en termes de technocratie. On veut montrer que on va s'orienter vers un fonctionnement moins technocratique, que l'administration va fonctionner de manière plus simple. Alors, de façon concrète, je peux pas vous dire ce que ça va être,
oui.
Mais il y aura une mesure.
C'était déjà ce qui avait été dit au début du quinquennat. On avait déjà dit l'administration sera intégrée dans les cabinets ministériels, ça sera beaucoup plus fluide, etc. Ça ne s'est pas du tout passé de cette manière. D'ailleurs, les directeurs d'administration centrale qui étaient convoqués pour écouter le Premier ministre ont finalement très peu changé en nombre. Mais ce qui est de tragique dans ce que vous venez de dire, Étienne Girard, c'est que vous avez dit ce qui va se passer. Et je suis convaincu que ce que vous dites est juste. C'est-à-dire, on peut anticiper le non-changement.
Ah oui, il ne va rien se passer.
On va avoir le gouvernement Randonion qui va applaudir au président de la République, mais on va aussi avoir la cohorte des oppositions et des contestataires professionnels qui va dire le même soir, qu'est-ce qu'on est déçu, c'est parce qu'on nous avait promis, enfumage, etc. On va avoir les porte-paroles des différents partis d'opposition qui nous disent, ben voilà, encore. Et ça, c'est quand même dommage que le débat politique se résume à une approbation pour la majorité et à une contestation pour les oppositions.
Virginie Lepetit, vous êtes aussi catégorique que vos camarades de jeu ?
Moi, je voudrais garder l'espoir, mais c'est pas si facile que ça. Ça serait quand même bien de descendre de l'Olympe, parce que ça transpire quand même également dans les revendications cette distance entre les Français d'une façon générale et ceux qui gouvernent et qui administrent le pays. Et puis, s'il n'y a rien, mais rien en termes de justice fiscale. Alors, pas forcément l'ISF. Hein. L'ISF, entendu, c'est un totem.
C'est ce qui va se produire essentiellement, donc ça va être fiscal, non ?
Oui, mais il faudrait que ce soit quand même une réelle mesure. Et je sais pas
si. Et compréhensible.
Et compréhensible, voilà. Mais on peut quand même espérer que ça a été entendu et qu'il y aura quelque chose de ce côté-là. Et ça serait quand même le minimum.
Charlotte Zen, on a vécu début décembre le chef de l'État qui fait ses annonces depuis l'Élysée et ça coûte 10 milliards à la sortie. Et une grande déception. Et au fond, le mouvement des Gilets jaunes s'est amplifié par la suite. Qu'est-ce qu'il peut faire là pour, on va pas dire arrêter de la contestation sociale, mais tourner une page sur ces mois et ces mois de difficultés?
Au-delà des annonces qui sont évidemment très attendues, pour moi, il a deux objectifs en termes de méthode. Il doit à la fois trancher, arbitrer, parce que les contributions sont contradictoires, on le dit depuis le début, et il va falloir qu'ils prennent position. Et quand on est le président du « en même temps », c'est pas le plus facile à faire. Et il va falloir qu'il fasse la synthèse. Et là aussi, faire la synthèse, alors que toutes
c'est
les contributions... sens, avoir vraiment une vision globale et exhaustive de tout ce que veulent les Français. Et ça, alors que toutes les contributions ne sont pas encore arrivées, ne sont pas encore dépouillées, sont analysées par des cabinets très compétents, mais sous la forme de nuages de mots lexicologiques qui, en fait, permettent globalement de voir quels sont les sujets sur lesquels les Français sont intervenus, mais qui ne donnent pas avoir les demandes concrètes, les propositions concrètes qu'ils peuvent formuler. Ça va être très compliqué.
C'est à se demander si nous ne sommes pas, Thomas Clé, des oiseaux de mauvais augure ce soir, hein, à essayer de douter en permanence de ce qui va se produire.
Tant mieux si l'avenir nous dément, mais on a un peu d'expérience, on a vu... au fond, c'est ça la déception, c'est que on nous a annoncé que les choses allaient changer, que ça serait différent. Ce que vous révélez aujourd'hui est quand même pas agréable. C'est-à-dire, si ça change, on bidouille pas la restitution. Et ça commence à mettre en doute l'ensemble du processus, alors que c'est un exercice qui était nécessaire, qui s'est quand même bien déroulé alors qu'il avait mal commencé, et que, au fond, les gens avaient envie de parler, qu'il y avait une envie de s'emparer du débat public, des questions parfois techniques. Moi, j'ai été, frappé comme juriste, ce qu'une des principales revendications pendant quand même un temps assez long a été l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que les gens d'abord s'emparent d'un sujet qui n'est pas accessible à tout le monde, et ensuite ça veut dire qu'ils aspirent avant tout à participer à l'élaboration de la norme, à participer, à jouer le jeu de la loi. Et j'ai trouvé que c'était une revendication vraiment remarquable. On parle, le mouvement des Gilets jaunes part sur une question de taxation de l'essence et arrive au référendum d'initiative citoyenne, qui est d'ailleurs court-circuité cette semaine par le référendum d'initiative partagée, sur lequel l'ancien monde, c'est-à-dire les parlementaires, essaye de reprendre la main, même sur le référendum d'initiative partagée, dont on s'aperçoit aujourd'hui, 11 ans après, qu'il est absolument infaisable.
Oui.
Et ce qu'on savait, nous, les juristes, avait dès 2008, mais qu'en fait, il n'aura jamais lieu. Et on a d'ailleurs un ministre qui, sur France Inter, l'a annoncé hier.
Étienne Girard, dernière considération avant de passer à ce qui se passe, à la situation au Soudan. Est-ce que tout ce qui se produit sous nos yeux, là, est en train d'empiéter, si je puis dire, sur la campagne des Européennes, que le chef de l'État semble vouloir piloter, même à distance ?
Oui, mais ce n'est pas la première fois. J'ai envie de vous dire, les campagnes des Européennes, si on regarde par le passé 2014-2009, c'est des campagnes très courtes. Les Français s'intéressent aux Européennes en réalité un mois avant l'élection.
À la dernière minute, oui.
À peu près. Oui, absolument. Et aujourd'hui, même si le temps de la campagne officielle, c'est trois mois avant l'élection, en réalité, les Français sont pas du tout rentrés dans ces campagnes des Européennes. Ils connaissent à peine les candidats, ils connaissent pas du tout les programmes. Et d'ailleurs, les candidats connaissent eux-mêmes pas toujours leur programme exact sur cette élection-là.
Vous confirmez,
Donc, on
n'est
pas
Petit,
du tout dans le temps des Européennes aujourd'hui.
Oui,
ça vaut pour les autres pays d'ailleurs au passage.
Ça vaut pour les autres pays, mais il y a quand même quelque chose qui est flagrant, c'est que cette grogne et ce sentiment d'injustice vient aussi nourrir la campagne des Européennes, enfin la campagne qui n'a pas démarré, mais vient nourrir en tout cas tous les partis qu'on voit en train de monter aux Européennes. Donc c'est pas complètement dissocié non plus.
20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules de Kiss.
Les habitants menacés par une grue chancelante dans le 16e arrondissement de Paris ne pourront pas rentrer chez eux avant dimanche soir au plus tôt. Les travaux pour stabiliser et renforcer l'engin vont durer au moins 48 heures. 11 immeubles ont dû être évacués ce matin. Un Palestinien de 15 ans tué ce soir par des tirs israéliens dans la bande de Gaza. D'après le ministère de la Santé gazaoui, au moins 17 personnes ont été blessées lors de manifestations et de heurts à la frontière avec Israël. C'est le résultat de 4 mois d'enquête, la saisie d'une tonne de cannabis et l'arrestation d'une quinzaine de personnes. Les policiers ont intercepté un GoFast, un convoi hyper rapide qui remontait du sud. Il faisait halte sur une aire d'autoroute en Eure-et-Loire. Pour faire le ménage chez soi, il faut privilégier les produits qui ont le moins d'allergènes possible. Alerte sur France Info, le syndicat des allergologues. Réaction à l'enquête de 60 millions de consommateurs sur la nocivité de ces produits. Il faut prendre garde aux emballages. D'après le magazine, ce n'est pas parce qu'ils sont verts ou évoquent la nature qu'ils sont vertueux, bien au contraire. Ouverture de la 32e journée de Ligue 1 ce soir, avec un match de mal classé pour le maintien qui se termine. 0-0 entre Amiens et Dijon. Il reste quelques secondes à jouer. Et un autre qui vient de commencer, Lyon, 3e, se déplace. À Nantes.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Les regards se sont tournés vers le Soudan. L'armée, vous le savez, a destitué le président Omar el-Béchir. La rue manifeste depuis de longs mois et s'inquiète. Est-ce qu'au fond, les militaires ne sont pas en train de récupérer le pouvoir ? Ils y sont déjà, c'est une junte qui est en place. On fait d'abord le point sur la situation à Khartoum.
Cela fait 5 mois que les manifestations se succèdent dans le pays. D'abord contre la hausse du prix du pain, puis contre le pouvoir d'Omar el-Béchir. L'une des figures du mouvement est cette jeune femme vêtue de blanc qui harangue la foule juchée sur une voiture. Les femmes ont joué un rôle clé dans la contestation. Quant au président déchu, il serait détenu sous bonne garde à la résidence présidentielle. Et la question se pose de son éventuel transfert devant la Cour pénale internationale. Omar El-Béchir est inculpé de génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité.
Virginie Le Petit, alors les militaires jurent, hein, c'est une déclaration de l'ambassadeur du Soudan à l'ONU, qui au fond ils vont juste garder le temple, hein, ils ne vont pas récupérer le pouvoir. Il faut les croire ou pas,
hein? Ouais, je pense qu'on peut sérieusement en douter, hein, quand même. C'est quand même, il y a eu des précédents, pas seulement au Soudan, et évidemment que de toute façon ils sont en train de confisquer ce qui pouvait s'annoncer comme un changement politique ou pas une révolution, mais si en fait une révolution.
Un printemps arabe ou pas, hein?
C'est ce qui est évoqué beaucoup dans la presse internationale et aussi dans la presse africaine, un nouveau printemps arabe, mais ça peut inquiéter parce que ce qu'il reste du printemps arabe, si on regarde aujourd'hui 8 ans après, c'était en 2011 le printemps arabe, il n'y a plus que la Tunisie finalement qui a, on va dire, réussi son printemps arabe et qui est allé vers une transition démocratique, et encore avec quand même parfois des difficultés. Pour les autres pays, ça se termine quand même à chaque fois très très mal. Et l'armée, à chaque fois, joue un rôle crucial. Et c'est elle qui reprend la main.
Oui, alors Thomas Claes, qu'on peut établir un parallèle, pardonnez-moi, entre ce qui se produit au Soudan et l'Algérie.
Oui, on peut faire un parallèle. Mais quand même, il me semble qu'on est là dans une réplique, alors certes tardive, du printemps arabe de janvier 2011, qui, pays après pays, quand même, et comme un jeu de domino.
L'Égypte voisine, hein, du Soudan.
Oui. Je rappelle quand même que entre, je crois que c'était le 13 janvier 2011, les mouvements à Tunis, et le départ, la fuite de Moubarak en Égypte, qui était le 11 février 2011, il ne se passe que 28 jours. Donc le printemps arabe va extrêmement vite. Et puis ensuite, il y a une réplique, et qui tient aussi au vieillissement des dirigeants en place. C'est-à-dire que ce qui se passe au fond en Algérie, c'est un président fantoche, un grabataire maintenu en place uniquement par l'armée, et c'est pareil pour Omar El-Béchir au Soudan. Et donc à un moment, l'armée arrête et dit « ça suffit ». Simplement, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de se demander si l'armée n'essaye pas de récupérer le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Je rappelle quand même que le bilan d'El-Béchir, c'est 300 000 morts au Darfour. On est face à des gens qui sont infréquentables. Donc, est-ce que l'armée n'essaye pas de maintenir son pouvoir quoi qu'il arrive? Et à ce titre, on a appris aujourd'hui ou hier, je crois, que l'élection présidentielle en Algérie était programmée pour le 4 juillet. Donc on s'est dit tout de suite, première réaction, bah, finalement ça veut dire que l'armée est prête à mettre en place une élection démocratique. Sauf qu'en réalité, ce qu'on comprend, c'est que finalement ce délai assez court pourrait être à effet inversé, c'est-à-dire que ça va permettre de mettre d'aller trop vite et de garder les gens pouvoir transitoire en place. Et c'est pourquoi il y a des manifestations en Algérie aujourd'hui même.
Étienne Girard, l'un des précédents, comme le disait tout à l'heure Virginie Le Petit, on pense à l'Égypte, hein, on est 8 ans plus tard et on a le maréchal Al-Sissi qui gouverne le pays d'une main de fer. Donc est-ce qu'il y a une forme inéluctable finalement de maintien de l'armée dans ces révolutions-là?
Il n'y a pas de fatalité. En Tunisie, l'armée n'est pas au pouvoir. Il y a une véritable transition démocratique qu'on pourra juger imparfaite, mais en tout cas il y a une transition qui a eu lieu, pas de fatalité. Cela dit, le Soudan sort de 30 ans de dictature. Il va pas être évident d'imposer à une armée qui est au pouvoir depuis 30 ans de lâcher immédiatement les rênes du pays. La population pousse dans ses retranchements le plus possible ces gouvernements-là. Vont-ils y arriver? Rien de sûr, d'autant plus que les grandes puissances, que ce soit la Chine, les États-Unis, sont pour l'instant extrêmement discrètes sur cette région du monde.
Charlotte Zen, les peuples ont besoin de liberté, sont épris de liberté. Ce soir, eh bien, il y a des affrontements, Jules Dekis le rappelait, à Alger, hein, et ailleurs, entre la police et les jeunes, hein, avec un coup de gaz lacrymogène. On a l'impression que le ton est en train de changer. Parce que là, une fois de plus, on attend trop, peut-être.
C'est vrai que la jeunesse des pays arabes s'est vraiment emparée de ces sujets, emparée de sa liberté, émancipée, oui. et veut aujourd'hui vraiment marquer fermement la fin de ces régimes autoritaires. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, quand on pense au Soudan, ce qui est crucial, c'est que ce n'est pas seulement le retour de la démocratie qui se joue, si donc une transition rapide est opérée vers un gouvernement civil, c'est un retour dans les clou de la communauté internationale, puisque la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va transférer le président déchu à la CPI, oui. Et est-ce que donc le Soudan va retrouver une place normale dans la communauté des nations et dans le concert des États?
Conclusion avec vous, Virginie Le Petit, vous êtes optimiste malgré tout?
Concernant le Soudan?
Concernant le Soudan et peut-être l'élan de démocratie dans ces pays d'Afrique?
J'aimerais l'être, mais simplement, il n'y a pas seulement un élan démocratique, il y a aussi une énorme crise économique qui sous-tend tout ça. Elle est loin d'être résolue. Et puis, il y a encore des exceptions malgré tout, et je pense notamment au Maroc, où quand même les gens qui avaient manifesté, notamment lors de la crise du RIF en 2016-2017, se sont vus infliger des peines de 20 ans de prison il y a une semaine, oui. Des peines extrêmement dures. Donc non, je ne suis pas très optimiste.
Allez, la une de Courrier International, rapidement.
La une de Courrier International, c'est qui régnera sur l'Internet? À l'occasion du lancement de la 5G, les États-Unis et la Chine cherchent à réécrire les règles et ça ne sera plus un réseau mondial.
Et la une de Marianne avec vous, Étienne Girard.
Oui, c'est l'offensive des obsédés de la race, du sexe, du genre, de l'identité. C'est tous ceux qui te demandent qui tu es avant de te demander ce que tu penses. Allez. Comment ils s'infiltrent dans les universités, dans les associations et dans les syndicats.
Merci à vous, Virginie Le Petit, Charlotte Z, Étienne Girard et Thomas Clé d'avoir participé à ces informés de France Info. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à lundi. Prochaine édition demain soir, les informés sur France Info. Restez fidèles. Merci à vous, bonne soirée.